Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ça va? Ok, je ne sais pas ce que je pourrais dire de moi maintenant. Si ça va bien, je m'exprime un peu. Est-ce que je peux vraiment dire ce matin que je suis libre de vraiment me présenter devant vous? Alors j'explique, parce que étant stagiaire dans cette église, en formation, j'ai Daniel comme référent pour mon stage et je sais qu'il va s'empresser ce matin de prendre quelques notes à mon sujet. Mais plus sérieusement, ce matin, j'aimerais qu'on puisse aborder cette notion de liberté et j'aimerais vous poser une question. Comment percevez-vous votre liberté en tant que croyant, vous aujourd'hui, ce matin ? Comment voir cette liberté du croyant ce matin? Et c'est ce que j'aimerais un petit peu aborder avec vous ce matin dans l'évangile de Jean, au chapitre 15. Et dans ce chapitre 15 de Jean, à partir du verset 1, j'aimerais associer la liberté que nous avons en Christ à un enchaînement particulier. Et dans les 17 premiers versets du chapitre 15 de l'évangile de Jean, j'aimerais nous laisser l'idée ce matin que le disciple doit être enchaîné à Christ pour vivre libre. Enchaîné à Christ pour vivre libre. Et j'aimerais faire la lecture, si vous voulez bien, dans Jean 15, à partir du verset 1 et les 17 premiers versets. Jean 15, 1 à 17. C'est moi, alors c'est Jésus qui parle, c'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Enchaîné à Christ pour vivre libre. Et j'aimerais voir deux choses avec vous. Quelle est finalement l'importance d'être enchaîné, attaché à Christ? Et qu'est-ce que finalement ces chaînes qui symbolise finalement notre attachement à Christ, qu'est-ce que ces chaînes signifient, impliquent. Alors j'aimerais commencer avec vous l'enchaînement du disciple à Christ, versets 1 à 8. J'aimerais tout d'abord qu'on se mette en situation dans le cadre qui nous est proposé, un cadre de vignoble à la campagne. D'ailleurs, on peut penser que Jésus se promène à côté des vignes lorsqu'il parle avec ses disciples et qu'il dit « Je suis le vrai cep ». Alors, il faut savoir que dans l'Ancien Testament, Israël est souvent comparé à une vigne. Et on peut en ressortir que c'est un symbole de l'alliance qu'il y a entre Dieu et son peuple. C'est le symbole du peuple de l'alliance de Dieu, cette vigne. Mais vous savez certainement que ce peuple juif d'Israël est souvent bien, bien stérile et bien, bien infidèle. Et Christ dit de lui-même ici, se présente comme le vrai cep. Et je pense qu'il incarne l'image du vrai Israël ici, en tant que peuple de Dieu. Jésus est le vrai cep. Il incarne le seul et unique représentant du peuple de Dieu, dans le sens où lui seul a accompli parfaitement les exigences qui étaient demandées avec l'alliance entre Dieu et le peuple. Et tout, c'est extraordinaire de lire l'Ancien Testament parce que tout l'Ancien Testament va pointer vers Jésus, va attendre cet ultime représentant, ce seul et unique être fidèle à cette alliance de Dieu. Et tout l'Ancien Testament pointe vers cet homme. Et Jésus dit, je suis le vrai cep. J'ai trouvé aussi belle l'image du cep dans le sens qu'un cep, ça n'a pas forcément une beauté extraordinaire d'apparence. Et Jésus se compare à ce cep. Et quand on lit des chapitres dans Ésaïe, Jésus n'a pas une apparence qui éclatante. Et il y a une deuxième chose qui ressort du cep, c'est que sa sève est extrêmement riche. Et Jésus est extrêmement riche aussi pour nous. C'est une belle image aussi, le cep et ses branches, de la relation que Dieu veut entre Christ et l'Église. Finalement, que ce soit le tronc et les branches, ça forme une unité. Et on peut sentir déjà l'envie de Dieu de créer cette unité entre Christ et l'Église. Ce que je veux faire sortir par rapport à ces remarques, c'est que Jésus affirme un cadre ici qui est quand même bien posé. Dieu le Père est le vigneron, Christ le cep est le vrai cep. Il pose bien les cadres. Et il pose l'écosystème, finalement, si on pourrait dire comme ça, l'écosystème pour la vie de son Église. Et on ressent bien toute l'importance ici, déjà, de tirer de Christ la sève indispensable à la vie. On ressent aussi très fortement l'unité que Dieu veut dans ce corps qui est son Église. Alors, dans quel but ce cadre est posé ? Ce cadre est posé par Jésus ici. Est-ce que c'est un cadre du type campagne paradisiaque pour nous dorer la pilule au soleil ? Ou plutôt, est-ce que c'est un cadre propice à une fertilité croissante pour notre vie spirituelle ? Et le but ultime, ce n'est pas de bronzer, mais c'est de continuer l'œuvre de salut que Jésus a inaugurée à la croix et de faire éclater la gloire de Dieu. Alors une question, est-ce que je désire faire partie de ce cadre ? Est-ce que moi je désire faire partie de ce peuple de Dieu ? Est-ce que moi je désire fortement être attaché à ce cep, à m'enchaîner à Christ ? Et je trouve que ça a son importance, lorsqu'on lit au verset 2, on voit deux types de serments, de sarments. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout serment qui porte du fruit, le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Deux types de serments. Un qui porte du fruit, qui ne porte pas du fruit, pardon, et qui est retranché. Et un qui porte du fruit et qui est taillé pour plus de fruits. Un qui ne porte pas de fruit, qui est retranché. Il y a beaucoup d'interprétations par rapport à ce sarment qui ne porte pas de fruit, qui est enlevé du cep. Et je veux en souligner deux possibles. La première, ce serait un faux professant, c'est-à-dire un chrétien qui fait une profession de foi de façade. Extérieurement, il est vu comme quelqu'un qui est attaché à Christ, mais qui finalement, intérieurement, est bien détaché et séparé de Christ. Et le retranchement, il pourrait signifier que finalement, il manifeste aucune foi réelle, cet individu. Il ne fait donc pas partie du corps de Christ. Et une deuxième interprétation possible, que j'ai intitulée « Le chrétien Je m'endors tranquillement, mais sûrement. Après une foi fervente, pendant quelques années peut-être, un croyant se laisse progressivement aller par la vie et laisser son être reprendre les commandes. Et finalement, il en oublie l'importance de tirer la sève qui vient de Christ, sa vitalité de Christ. Et le retranchement pourrait simplement signifier que, avec les aléas de la vie, ben, il quitte l'Église, il se sépare de l'Église. Ou pire encore, peut-être que Dieu pourrait intervenir dans sa vie corporelle et il pourrait mourir. Et on a un exemple dans Actes, Ananias et Saphira, où il y a quand même une sentence radicale qui est donnée. Alors, je ne suis pas en train de souligner ici que le chrétien peut perdre son salut parce qu'il ne peut pas le perdre. Mais il y a une séparation liée à ce manque de vigilance. Et après, il y a un deuxième sarment, celui qui porte du fruit et qui est taillé. Alors, je préfère être dans cette catégorie-là, perso, mais il est quand même taillé, ce sarment. Et des fois, ça peut peut-être faire peur ou décourager, et j'aimerais vraiment nous encourager à faire partie de ce sarment-là, parce que j'aimerais faire remarquer à quel point le Père, le vigneron ici, a vraiment compassion vis-à-vis de sa vigne. Il a vraiment plein d'amour. Et je ne pense pas, même quand il retranche un sarment, qu'il le fait sur un coup de tête, qu'il le fait sur un coup de colère, mais derrière ça, il y a toujours l'amour et la compassion de Dieu. Et lorsque Dieu aussi parle de tailler sa vigne, dans le mot tailler, on peut en ressortir plusieurs choses. Ça veut dire nettoyer, enlever les impuretés, rendre pur. Et il y a aussi cette notion de protéger et de renforcer. Vous savez, quand un vigneron taille sa vigne, des fois il taille des branches qui ont poussé un peu trop vite et qui sont assez fines et qui pourraient casser avec le temps. Donc il les taille pour les renforcer. Il les taille pour les protéger. Et de la même manière, je pense que Dieu a ce désir de nous protéger, de nous voir grandir attachés à lui. Et Dieu utilise un outil de taille spécifique, c'est sa parole, la parole de Jésus. On peut lire au verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alors Jésus ici ne dit pas que ses disciples sont tous purs de vice, où il n'y aurait plus de vice dans leur vie. Et lorsqu'un croyant accepte Christ et sa parole, il reçoit en lui-même un pacte complet. C'est le pacte complet nouvelle créature. Il est optimum. Lorsqu'un humain accepte la parole de Jésus, son évangile, il reçoit en lui-même le Saint-Esprit. Et c'est une graine, et pas petite, parce que Saint-Esprit, on ne peut pas dire qu'il soit petit, mais c'est une graine qui est plantée dans l'esprit de l'homme. Et pourquoi symboliser un peu par rapport à cette graine? Parce qu'une graine en soi détient tout ce qu'il faut à la vie. Une graine a tout ce qu'il faut pour donner vie à un arbre. Et je crois qu'on peut faire le parallèle aussi avec notre vie en tant que croyant. De la même façon, quand on accepte la parole de Dieu, l'évangile, on reçoit en nous-mêmes tout ce qui contribue à la vie spirituelle. Et lorsque Jésus dit que les disciples sont purs, ça veut dire qu'ils ont reçu tout le principe de pureté que Dieu a inséré dans leur vie en tant que ses enfants. C'est un fondement complet. Seulement, je pense que le croyant doit maintenant s'appliquer à s'en saisir. C'est Calvin qui dira que la leçon que Jésus veut donner ici à ses disciples, c'est qu'ils doivent faire continuellement l'expérience de la grâce et que cette expérience continuelle de la grâce, jour après jour, est vitale pour le croyant. Jésus montre à quel point la parole de l'Évangile, sa parole, est magnifique parce qu'elle nous donne une grâce, mais elle est magnifique aussi parce qu'elle produit continuellement du fruit dans notre vie. On peut citer 2 Timothée 3,16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Alors cette position qu'on a reçue lorsque nous avons accepté Christ et sa parole, Elle nous conduit logiquement en mouvement, en action. Et c'est ce qu'on lit après au verset 4 à 6. Elle nous appelle à demeurer dans cette parole, dans cette grâce que nous avons reçue. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu des amis à la maison, certainement. Et je ne sais pas si vous connaissez cet ami particulier. Tu vois, c'est celui qui est super sympa, tu aimes bien prendre un café avec lui. Mais il a un gros inconvénient, c'est qu'il a tendance à vraiment squatter ton canapé. Le gars, il ne bouge pas, il s'attarde longuement. Tu enlèves même les choses de la table discrètement pour lui faire comprendre qu'il doit s'en aller. Mais rien à faire, il ne veut pas partir. Lorsque Jésus nous invite à demeurer en lui, il faut s'inspirer de cet ami-là. C'est trouver en la personne tellement de raisons de squatter avec lui, de rester à côté, de s'attarder longuement à parler avec lui. Je ne veux pas partir du lieu où est mon maître et mon Seigneur. Et cette idée-là, je ne pense pas qu'elle concerne seulement les personnes super spirituelles, mais elle est indispensable à tout chrétien, à tout enfant de Dieu. J'en suis où dans ma relation avec Dieu aujourd'hui? Est-ce que je passe constamment chez lui pour m'installer sur son canapé? Ou est-ce que je suis plutôt genre à lui envoyer un petit texto pour dire « on remet ça la prochaine fois » Verset 5, Jésus dira « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'ai déjà un peu évoqué la caractéristique du bois de vigne, mais j'aimerais un peu aller plus loin. Il y a un truc extraordinaire. C'est que ce bois, en tant que tel, il est pourri. On ne peut rien en faire. Pas de meubles, pas de bois de construction. Et c'est même un très mauvais bois de chauffage. Ça chauffe pas du tout. Mais j'aimerais qu'on réalise que lorsqu'on est enchaîné à Christ, on peut voir aussi une chose extraordinaire dans le bois de sève, c'est que la sève est extrêmement riche qui passe dans ce bois. Et ce bois peut donner l'occasion à un sarment de porter un fruit exceptionnel, à l'origine d'un grand cru. Je ne sais pas s'il y a des fans de vin ici, mais un fruit excellent. Tout ça parce que la sève passera dans son être pour apporter ce fruit excellent. Alors quand on est enchaîné à Christ, attaché à Christ, il y a une chose extraordinaire qui se passe en nous-mêmes. C'est que la vie de Christ se déverse en nous et donne naissance à du fruit, et beaucoup de fruits. Alors ne nous privons pas de cette puissance que Dieu veut déverser en nous. L'attachement d'un croyant à Christ est vraiment une puissance. Et on peut voir dans le verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Là, ça donne envie. Non ? Ça ne vous donne pas envie ? Alors, l'attachement à Christ est une vraie puissance, pas parce que notre liste de Noël va être accordée ici. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Mais elle est une vraie puissance parce que le chrétien sera capable de faire et de pratiquer la volonté de Dieu. Ce qui est la cause de l'exaucement de la demande du croyant ici, c'est que les paroles de Jésus demeurent tellement dans l'être du croyant que cela va engendrer une transformation majeure de son être, à devenir animé du même zèle qui animait Jésus, du même zèle que Jésus avait de vouloir faire la volonté de son Père. Est-ce que je n'ai pas ce désir profond en moi, en tant que chrétien, aujourd'hui? Est-ce que je n'ai pas ce désir d'accomplir la volonté de Dieu sur terre, dans mon couple, dans ma famille, autour de moi? Je ne sais pas si vous le sentez, mais en tout cas, moi, en relisant ce texte, J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est au fond de nous-mêmes lorsqu'on a rencontré Christ. On veut vivre ça. Et c'est ce que nous rappelle ce texte. Verset 8, ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Nous ne pouvons pas négliger l'attachement et la dépendance constante à Christ pour accomplir notre vocation. Et pour moi, un véritable chrétien est donc un chrétien enchaîné à Christ. C'est vital et c'est capital pour la vocation que Dieu nous a donnée. J'aimerais voir une deuxième chose avec vous. Ce que porte le disciple dans ses chaînes. Pourquoi avoir symbolisé cet attachement à Christ par cela? Et Jésus, à partir des versets 9 jusqu'à la fin, il dépasse largement la métaphore du cep pour décrire plus précisément ce qui attache profondément le disciple à Christ. Tout ce qui vient d'être partagé ici sur l'attachement indispensable à Christ pour vivre va prendre tout son sens ici au verset 9. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Toute l'importance d'être attaché, lié à Christ, prend son sens, tout son sens, dans l'amour de Christ pour nous. Jésus nous aime du même amour que Dieu le Père aime Jésus. Un amour que j'arrive pas à décrire, à mesurer. Et c'est cet amour qui constitue mon lien avec Christ, ma relation à Christ. D'une manière purement végétale et scientifique, un sarment accroché à un cep, il n'a pas d'autre choix que de rester accroché à ce cep s'il veut vivre. Sa position, elle est forcée et elle est subie. Mais quand on regarde à l'œuvre de Christ, qu'est-ce qu'on voit lorsqu'il était sur cette terre? Quand il a accompli parfaitement la volonté du Père, restant attaché et uni au Père, lui n'a pas été forcé, il n'a pas subi sa position, parce qu'il s'est réfugié dans l'amour de son Père. Ce qui a conduit Jésus à vivre l'obéissance et la soumission parfaite a été motivé par l'assurance qu'il avait de l'amour de son Père. Son obéissance a été conduite par amour, par l'amour du Père qu'il avait reçu. Et son obéissance a été jusqu'à la mort. Et cette mort, à mon sens, il l'a librement consenti par amour pour le Père et il a aussi librement consenti à déverser son amour pour nous aujourd'hui, pour l'humanité entière. Et nous, en tant que disciples, on est appelés à vivre l'enchaînement à Christ selon cet exemple, en s'imprégnant de cet amour énorme. Alors, désirer cet amour, prendre le temps de se plonger dans cet amour, méditer cet amour, s'accrocher à cet amour pour nous et que Dieu veut nous donner comme ressource aujourd'hui, c'est une véritable bombe atomique pour notre vie chrétienne. Pourquoi je dis ça? Et j'aimerais relever plusieurs choses. Pourquoi c'est une véritable bombe atomique cet amour pour Dieu? Ou en tout cas, pourquoi cet amour devrait ne pas nous laisser indifférents? Parce que cet enchaînement à Christ, elle communique et nous donne de vivre une réelle liberté. Une réelle liberté. Verset 11, une promesse est faite. Je lis. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Une promesse que la joie de Christ, celle qu'il a vécue, eh ben on puisse la vivre. Et elle contribuera à avoir notre joie complète. Je me suis posé la question, c'est quoi une joie complète? C'est une joie qui ne peut être plus remplie, plus grande. Et je trouvais que ça avait un synonyme de complétude, se satisfaire. Vous savez, si on pourrait comparer notre vie à tout ce qui nous entoure, cette sphère qui nous entoure, eh ben, on serait pleinement satisfait de tout ce qui environne notre vie. Je suis pleinement satisfait, comblé. Alors, je n'ai pas besoin de compléter ma vie par autre chose. Vous savez, du genre, si j'avais plus ceci ou plus cela, je serais plus heureux ou je serais plus satisfait. Si j'avais une belle carrière, plus d'argent. Des besoins, finalement, que le monde tente de nous faire, de nous donner et de nous faire miroiter comme finalement une vraie source d'épanouissement ou une vraie source de liberté. Mais en réalité, toutes ces choses, elles ne vont jamais nous combler et jamais nous satisfaire pleinement et jamais nous donner l'occasion de vivre plus libre. Une deuxième chose, un effet de cette bombe d'amour dans notre vie, c'est qu'on est libre d'aimer vraiment comme Christ a aimé. Et on le voit au verset 12, c'est un commandement de Jésus. Et je me suis fait cette réflexion. Si je suis capable d'aimer comme Christ a aimé, c'est que d'une certaine façon, je suis vraiment libre. Qu'est-ce qui nous empêche d'aimer un frère, une sœur? C'est quand même un truc de fou d'aimer un frère, une sœur. Je ne sais pas pour vous, mais des fois, ça m'est difficile. Et souvent, il y a plein d'obstacles à l'amour pour son prochain ou pour un frère ou une sœur. Et ces obstacles peuvent être la peur du jugement, le préjugé sur l'autre, le besoin d'un retour sur investissement, la colère, le mépris, la jalousie. Bref, plein d'obstacles. Mais lorsque nous attachons à Christ et que nous vibrons à cet amour qu'il nous porte, Christ nous rend capables d'aimer librement. Et cet amour abondant nous donne vraiment cette liberté d'aimer comme Christ a aimé. Et je souhaite vraiment que Dieu puisse nous transformer à ce niveau. Et il y a encore un effet que je voulais noter avec vous, versets 14 et 15. Christ nous appelle ses amis. Et il ne fait pas de nous des esclaves. Il dit que vous n'êtes plus esclaves ou serviteurs, c'est le même mot utilisé ici, mais qu'on est appelé ses amis. Et moi, j'ai intitulé cet effet de l'amour de Dieu dans ma vie comme la liberté de prendre part à notre service avec joie. La liberté de prendre part à notre service avec joie. Tu comprends qu'il y a une différence majeure entre un esclave et un ami. L'esclave, il subit l'ordre du maître. L'ami, lui, accepte l'invitation par un attachement au maître, d'amitié, et il le fait librement et avec joie. L'amour, l'attachement à Christ, elle nous aide à vivre notre service pour lui, d'une manière libre, de porter ses recommandations, ses ordonnances, pas comme un poids, pas comme un fardeau, mais avec plein de joie et de reconnaissance. J'aimerais lire le verset 16 avec vous. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Et ce verset 16 vient après tout ce qu'on vient de dire. Alors, pour moi, c'est vraiment révélateur. Christ a choisi de parler de tout cet amour, de cette communion possible avec lui, dans l'amour qui existe entre le Père et Christ. Et maintenant, verset 16, Christ dit que c'est lui qui nous a choisis, qui nous a établis comme disciples pour accomplir une mission. Et moi, ça me fait du bien d'entendre ça. Parce que ce qui est à l'origine, que je sois chrétien aujourd'hui, que le fait que Christ m'ait choisi et établi, ce qui est à l'origine de tout cela, c'est la bienveillance. C'est l'amour de Dieu et du Père éternel. C'est l'amour et la bienveillance de Dieu qui est à l'origine de tout le plan merveilleux qu'il a pour ses enfants et ses disciples. Nous avons un Dieu plein de bienveillance. Et c'est par grâce et amour qu'il nous établit aujourd'hui à la suite de Christ pour le glorifier. Et cet amour de Dieu, cette bienveillance de Dieu, nous pousse vraiment à aller et à porter du fruit. Parce qu'on sait qu'il ne va pas avoir de plus grande satisfaction, de plus grand projet de bienveillance qui existe pour un être humain que celui que Dieu propose ici à nous, ses disciples. Osée 11.4, il a été affiché très souvent hier pendant le séminaire. Je te l'ai piqué. Je les menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. Je les ai attirés avec des liens d'amour. J'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson contre leur joue et qui lui tendaient de quoi se nourrir. C'est fort comme image de Dieu envers nous, ses enfants. J'aimerais conclure. L'enchaînement à Christ pour vivre libre est une notion indispensable à chaque croyant que nous sommes. Et Jésus, lorsqu'il parle de cette image du cep et du sarment à ses disciples, il prépare son départ. Et il sait ce qui va attendre les disciples. C'est quand même une mission lourde, en quelque sorte, que de passer à la suite de Christ. Mais Christ ne nous laisse pas seuls. Il nous laisse son esprit et nous laisse la possibilité de s'entretenir avec lui tous les jours. Et il sait que l'attachement, le lien qu'on doit cultiver jour après jour avec Christ est une arme redoutable. Parce qu'avant d'arriver au chapitre 15 de Jean, Jésus prévient ses disciples. Il y en a un qui arrive et qui n'a rien de moi et qui n'a rien en moi. Vous, vous n'êtes pas de cette catégorie, vous avez tout en moi. Il va falloir se battre et il va falloir continuer à puiser cette source en moi. Alors persévérons à ne pas laisser cet attachement à notre Seigneur passer au second plan ou aux oubliettes. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais bien souvent ça m'arrive moi. Avant même de penser à prendre ce temps avec Christ, j'ai déjà plein de pensées de tout ce que je dois faire dans la journée. Il y a ceci à faire, il y a cela à chercher, tout ça. Vous pensez que ces pensées viennent de qui ? Satan essaye de nous affaiblir au maximum. Il va essayer de couper là où il y a le plus pour nous à recevoir de force. Alors ne laissons pas le plaisir à Satan de nous priver de notre liberté en Christ, mais puisons sans modération, jour après jour, dans l'amour de Dieu pour nous, et puisons et enchaînons-nous à Christ sans modération, jour après jour. Jean 8, 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Jésus dit encore ces paroles dans cette dernière prière pour ses disciples, « Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie aussi dans le monde. Je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore. » C'est ça l'intention de Dieu dans notre vie, de se révéler encore plus à nous. « Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, je sois en eux. » Que Dieu nous bénisse, j'aimerais prier. Seigneur, je veux te remercier et te louer parce que tu nous as tout donné pour vivre sur cette terre. Nous avons tout pleinement en toi. Seigneur, pardon parce que le bien souvent, ce qui saute en premier dans nos vies, en tout cas je parle pour moi, c'est cet échange et cette relation à toi qui me donne tout ce que j'ai besoin pour accomplir, pas ma volonté, mais ta volonté. Je prie Seigneur que tu puisses nous fortifier, nous aider par ton esprit à venir chaque jour à la source que tu es, pour vivre pleinement cette liberté que nous avons en toi d'accomplir les merveilleux projets pour ta gloire, pour ta volonté. Seigneur, je prie que tu bénisses ton Église et nous bénisses. Au nom de Jésus. Amen.